Ce balado est seulement fourni à titre d'information générale. Il n'est pas un substitut pour une recommandation, diagnostic ou traitement de la part d'un professionnel de la santé. Le contenu médical présenté et l'information fournie représentent seulement l'opinion du conférencier invité.
Lung and Learn. Sujet d'intérêt en santé respiratoire.
Bonjour et bienvenue à cette édition de Lung and Learn. Je suis votre hôte, Dr. Yves Croisetière. À chaque jour, je parle aux pneumologues des dernières publications scientifiques et leur impact sur leur pratique clinique. Aujourd'hui, je suis ici avec le Dr. Samer Georges, pneumologue à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Dr. Georges est ici pour nous parler de dyspnée en MPOC. Merci d'être avec nous, Dr. Georges.
Pas de souci.
Que pouvez-vous nous dire sur vous et votre pratique clinique?
Je suis pneumologue depuis novembre 2017. Je pratique dans un centre hospitalier à Montréal et j'ai fait une formation complémentaire essentiellement à Marseille en pneumologie d'intervention. Je pratique la bronchoscopie rigide, la mise en place de stents, la thoracoscopie médicale et les maladies pleurales surtout. J'ai aussi une formation complémentaire en médecine hyperbare et je pratique un peu la pneumologie générale tout de même dans le centre hospitalier ici où je fais de la MPOC. Je travaille avec les patients avec des maladies emphysémateuses, des bronchites chroniques et l'asthme même.
Wow! Faire une spécialisation à Marseille, cela a dû être très intéressant. Comme vous venez de le mentionner, vous voyez plusieurs patients souffrant de MPOC ou d'asthme dans votre pratique générale. Et nous savons que l'essoufflement est l'un des premiers symptômes de ces conditions. Et c'est pourquoi que nous sommes ici aujourd'hui, pour discuter de ce symptôme particulier. Dites-moi, quelle est la première chose qui vous vient en tête quand vous entendez le mot essoufflement?
Quand j'entends le mot dyspnée, essentiellement, quelques termes me viennent en tête. Donc, je pense à une difficulté respiratoire, à un manque d'air, à aussi l'aspect panique et anxiété en lien avec cette sensation de manque d'air. Je pense aussi à quelqu'un qui se bat pour respirer, voire même pour survivre. Et tel que certains de mes patients me le mentionnent, quand ils sont dyspnéiques, ils me mentionnent aussi une sensation de mort imminente. Donc, ce sont les termes qui me viennent en tête quand j'entends le mot dyspnée.
Vraiment? La mort imminente, cela, c'est très terrifiant. Dites-moi, quel est le mécanisme derrière l'essoufflement et pourquoi celui-ci se manifeste-t-il dans la MPOC?
Donc en fait, la dyspnée est un symptôme indiquant une certaine difficulté respiratoire, donc associée à une sensation d'essoufflement, de manque d'air, une certaine anxiété sous-jacente aussi. Les mécanismes de la dyspnée dans la MPOC, il y en a quelques-uns en fait.
Très bien. Commençons avec le premier.
Initialement, on parle de destruction du parenchyme pulmonaire qui est en lien avec toute cette inflammation au niveau pulmonaire. Cette destruction du parenchyme cause une diminution de la diffusion de l'oxygène. Cette inflammation-là, au niveau pulmonaire, cause un rétrécissement du flot aérien, donc atteint surtout les petites et moyennes voies aériennes, donc tout en causant une diminution du flot aérien. Et ces patients-là, en fait, se retrouvent avec une certaine hyperinflation pulmonaire et un cloisonnement aérien. Et donc, il y a un échange gazeux qui se fait de façon sous-optimale. Donc, l'oxygène diffuse moins bien dans le sang, le CO2 est plus difficilement expulsé. Et donc, on rentre un peu dans un cercle vicieux d'inflammation, d'hyperinflation et d'inflammation supplémentaire chez les patients avec une MPOC.
OK. Donc, nous avons la destruction du parenchyme pulmonaire qui mène à une oxygénation sous-optimale, contribuant ici à des dommages additionnels. Quoi d'autre?
Toujours penser aussi à l'hypersécrétion de mucus chez les patients avec une MPOC. Et cette hypersécrétion-là cause de la toux chronique, engendre aussi de l'inflammation supplémentaire et vient participer à notre cercle vicieux précédemment décrit.
Je vois. Ceci explique les sécrétions que l'on voit. Y a-t-il d'autres causes?
On peut aussi parler d'hypertension pulmonaire chez les patients avec une MPOC.
Oui.
Cette hypertension pulmonaire est due à une certaine vasoconstriction hypoxique, donc chez les patients chez qui la diffusion d'oxygène se fait moins bien. On note une certaine vasoconstriction des vaisseaux, des artères pulmonaires. Et donc, les artères pulmonaires deviennent un peu plus rigides et donc causent une hypertension pulmonaire qui, elle aussi, peut participer aux troubles de diffusion de l'oxygène.
Mm-hmm. Donc, on peut voir comment la MPOC peut amener l'hypertension pulmonaire. Qu'en est-il des exacerbations à MPOC?
Il faut tout de même que je vous glisse un mot par rapport aux exacerbations aussi, qui sont décrites en fait comme une cause de dyspnée, et on sait que les patients avec de multiples exacerbations ont une maladie pulmonaire obstructive chronique qui se détériore plus rapidement à long terme.
Mm-hmm.
Et donc les exacerbations sont aussi un facteur de risque de l'augmentation de la dyspnée avec le temps et donc de l'augmentation de l'hypoxie aussi. Et on se rappelle que l'hypoxie rentre en jeu et participe à la dyspnée de multiples façons, comme la vasoconstriction hypoxique.
Et quand ces patients sont incapables de récupérer, comment l'activité physique peut jouer un rôle?
En fait, ne jamais oublier les effets systémiques de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Les patients avec une telle maladie, et à cause de leur dyspnée, se retrouvent un peu plus inactifs, se retrouvent dans une certaine condition de déconditionnement, et donc perdent un peu de masse musculaire, deviennent un peu plus cachexiques, et on augmente en fait de là la dyspnée à cause de ce déconditionnement-là. Donc, la dyspnée dans la maladie pulmonaire obstructive chronique vient de multiples mécanismes.
Le tout est plutôt compliqué et interrelié, n'est-ce pas?
Oui, exactement.
Maintenant, considérant que plusieurs patients ont de l'essoufflement, comment évaluez-vous celui-ci et quel outil utilisez-vous?
Donc, l'évaluation de la dyspnée vient principalement du questionnaire avec le patient, c'est-à-dire s'asseoir avec le patient, discuter, voir qu'est-ce qu'il fait durant ses journées, quel est son niveau d'activité.
OK.
Dans les guidelines, le GOLD 2019 nous mentionne tout de même qu'il y a une échelle qu'on peut utiliser qui s'appelle l'échelle de dyspnée modifiée MRC. Et en fait, c'est une échelle qui est gradée de 0 à 4. 0 étant le patient est dyspnéique à un effort important, et 4, ou le grade 4, où le patient est dyspnéique au moindre effort, voire même au repos.
OK.
Et donc, selon cette échelle, nous permet quand même de placer le patient indépendamment du degré de sévérité de cette dyspnée, tout en mentionnant, tout en considérant ses activités quotidiennes à domicile.
Intéressant. L'échelle modifiée de MRC qui mesure l'essoufflement est définitivement très populaire. Je trouve cette échelle plus simple que l'échelle de 4. Il s'agit d'une recommandation des lignes directrices de la Société canadienne de thoracologie. Y a-t-il d'autres échelles que vous aimez?
Une deuxième échelle que j'aime utiliser, c'est l'échelle de Borg, qui est une échelle qui nous permet d'évaluer l'intensité de la dyspnée ou de la fatigue chez nos patients, mais durant l'exercice. Donc, c'est une échelle qu'on utilise ici à l'hôpital quand nos patients sont soumis à des tests d'effort, sur un tapis roulant par exemple ou sur un vélo. Et ça nous permet en fait de grader cette dyspnée ou cette fatigue de 0 à 10.
Docteur, si votre patient a un score sur l'échelle MMRC de 2 ou 3 et un score de Borg de 5, comment est la vie du patient?
La dyspnée a tout de même un très grand impact négatif sur la qualité de vie de nos patients en général. Malheureusement, ces patients tombent un peu dans un cercle vicieux, c'est-à-dire avec la dyspnée vient une certaine immobilisation, vient une certaine inactivité, et donc un déconditionnement, une fonte musculaire, et tout cela, en fait, augmente la dyspnée et augmente à son tour le déconditionnement éventuellement, parfois même multipliant même les comorbidités, par exemple cardiaques, comme on sait, chez les patients avec une maladie pulmonaire obstructive chronique.
Je veux voir.
Sortent moins de chez eux, parfois même s'isolent aussi, participent de moins en moins à leurs événements sociaux. Et donc, ça a tout de même un effet très négatif, en fait, sur la qualité de vie de nos patients.
Wow! Je peux seulement m'imaginer comment la vie d'un patient serait sévèrement impactée et diminuée. Et cela doit aussi jouer sur leur niveau d'anxiété.
Oui, exactement. Ne jamais aussi oublier l'aspect anxiété qui vient avec cette dyspnée en lien avec la maladie pulmonaire obstructive chronique. Cette sensation de manquer d'air est tout de même très anxiogène. Et ce sont des patients qui ont de la difficulté à gérer cette anxiété et donc tendent tout de même à s'isoler avec le temps.
Alors, comment faire face à ce grand défi tout en gérant de façon holistique l'essoufflement chez le patient?
Donc, la dyspnée chez les patients doit être traitée de façon globale. Et donc, bien sûr, on peut commencer avec les bronchodilatateurs. Donc, ces médicaments peuvent diminuer à leur tour l'inflammation et donc l'obstruction des voies aériennes et donc aider à couper un peu le cercle vicieux qu'on a décrit précédemment et donc finalement diminuant la dyspnée.
Mm-hmm.
De plus, en fait, je travaille beaucoup aussi sur la prévention des exacerbations, tout en offrant un certain counseling à mes patients, les corticostéroïdes inhalés, dépendamment du type de patient et de la vaccination aussi, autant contre l'influenza que le pneumocoque, et bien sûr la réadaptation pulmonaire qui a tout de même un rôle important chez nos patients afin d'éviter le déconditionnement et en fait de garder le patient actif afin de tenter de diminuer cette sensation de dyspnée-là avec le temps.
Juste pour résumer la discussion, nous avons des bronchodilatateurs qui ouvrent les voies respiratoires, des corticostéroïdes inhalés pour réduire les exacerbations chez certains patients, la vaccination pour la pneumonie et l'influenza et la réhabilitation pulmonaire. Est-ce qu'il nous manque autre chose?
Chez les patients avec une MPOC plus avancée, nous avons des médicaments qui peuvent que l'on peut donner, incluant en fait les médicaments de la classe d'opiacés, qui, elle, diminue le travail respiratoire, diminue aussi cette sensation d'anxiété et donc participe à la diminution de l'hyperinflation chez nos patients.
Si même avec toutes ces interventions, les patients continuent à être essoufflés, il se peut qu'ils peinent à utiliser leur inhalateur correctement. Les dernières lignes directrices GOLD citent plusieurs études observationnelles qui ont identifié une relation significative entre une utilisation sous-optimale d'un inhalateur et le contrôle des symptômes. Avez-vous observé la même chose dans votre pratique?
Donc, plusieurs études ont démontré que le 2/3 des patients avec des inhalateurs à domicile font au moins une erreur en utilisant leur inhalateur. De plus, certaines études prospectives ont démontré que seulement 23% des patients utilisaient adéquatement leur inhalateur à leur sortie d'hospitalisation.
Vraiment?
Les facteurs contribuant à une utilisation erronée de ces inhalateurs sont multiples, tels l'âge avancé, la prise de multiples inhalateurs et en fait l'absence d'enseignement à l'utilisation de ces inhalateurs de la part des professionnels de la santé, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmière ou même le pharmacien.
Ah.
Je note tout de même dans ma pratique qu'environ un patient sur 4 ou un patient sur 5 me mentionne quand même de la difficulté dans la prise de l'inhalateur, ainsi qu'une incertitude par rapport à la technique comme telle.
Très intéressant. Donc, les patients qui n'obtiennent pas une maîtrise de leurs symptômes avec leur inhalateur devront changer celui-ci?
Selon mon expérience, le changement d'inhalateur aurait aidé plusieurs de mes patients dans la maîtrise, dans la gestion de la dyspnée ou dans l'amélioration de la dyspnée chez mes patients avec une maladie pulmonaire obstructive chronique.
OK.
Il faut noter que la prescription d'un inhalateur doit être individualisée aux patients. Certains patients, dépendamment de leur comorbidité, peuvent avoir une certaine difficulté avec la prise d'un inhalateur comparativement à un autre modèle.
Très bien. Considérant l'importance des comorbidités et des symptômes du patient, j'assume que tout ceci a une influence sur l'observance du patient.
Certains patients préfèrent avoir un inhalateur une fois par jour, d'autres préfèrent l'avoir 2 fois par jour. Certains patients préfèrent tourner la manette, d'autres préfèrent un autre mécanisme. Donc, il faut poser les questions et tenter de clarifier le dispositif le plus adéquat à nos patients.
Mm-hmm.
On sait tout de même que les inhalateurs participent à une certaine diminution de la dyspnée, sans vraiment varier les valeurs spirométriques chez nos patients avec une maladie pulmonaire obstructive chronique. On travaille très fort pour essayer d'avoir une prise d'inhalateur optimale à domicile chez mes patients.
Wow! Cela me semble comme une très bonne stratégie. Avez-vous d'autres trucs que vous aimeriez partager avec nous?
En fait, ici, au centre hospitalier où je travaille, nous avons un centre d'enseignement à nos patients avec une maladie pulmonaire obstructive chronique où on leur apprend comment respirer de façon adéquate tout en bien bouger le diaphragme, essayer de remplir les poumons le plus possible, expirer le plus longtemps possible aussi. Donc, il y a certaines techniques en fait qui nous permettent de gérer un peu cette hyperinflation qui est quand même un point clé causal de la dyspnée.
Wow, c'est fantastique.
J'aime bien en fait dans ma gestion de la dyspnée chez mes patients avec une MPOC, avoir un suivi spirométrique, bien que je suis au courant que les médicaments qu'on donne, les bronchodilatateurs, par exemple, ou la médication, n'améliorera pas nécessairement la spirométrie, mais j'aime bien savoir le patient devant moi, en fait, j'aime bien avoir une idée de la progression de sa maladie.
OK, je vois.
Dans certains centres aussi. Ne jamais oublier, en fait, certaines techniques un peu plus avancées. Et ne pas hésiter en fait à référer nos patients vers des centres avec une certaine expertise en réduction de volume pulmonaire avec des valves par exemple que l'on peut implanter à l'intérieur du poumon et en fait essayer de diminuer cette hyperinflation à long terme et finalement diminuer la dyspnée. Mais à noter en fait que ces techniques sont faites dans certains centres avec une expertise dans la matière et dans ces techniques.
Intéressant. C'est définitivement une façon émergente et innovante de dégonfler le poumon. Avez-vous d'autres idées quant au futur de la gestion de l'essoufflement?
La médecine a tendance à devenir de plus en plus individualisée et les médecins commencent à orienter leur traitement dépendamment en fait du patient devant eux, du patient que l'on a devant nous. Et donc, ça nous permet en fait de voir quel est le point majeur causant la dyspnée chez nos patients. Il faut essayer d'individualiser notre gestion de la dyspnée chez nos patients avec une MPOC. Mm-hmm. Ne jamais oublier l'enseignement par rapport aux inhalateurs aussi, qui est tout de même important, qui est aussi problématique en fait dans notre pratique, surtout vu le haut taux de prise erronée de ces inhalateurs-là. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à mettre au niveau de l'enseignement chez nos patients avec MPOC.
Donc, essentiellement, il s'agit d'aider les patients à s'aider eux-mêmes.
Oui, exactement.
Très bien. Merci infiniment, Dr. Georges, pour cette conversation très enrichissante. Ceci conclut le balado sur la dyspnée et la MPOC avec le Dr. Samer Georges. Si vous avez trouvé cet épisode sur la dyspnée et la MPOC intéressant, vous pouvez avoir accès à un autre balado Long and Learn sur le sujet de l'oscillométrie. Merci pour votre écoute et à la prochaine!